Parce qu'un vrai repas, il y a aussi le parfum. Ça, les Tunisiens le savent. Enfin, le savent encore, les autres savaient aussi. Et alors, il y a une explication que c'est 39, c'est 3 fois 13. Effectivement, 39, c'est 3 fois 13. Vous savez que 13, c'est la valeur numérique de Echad. Il y a 3 unités de travail. C'est tout ce qui est nécessaire pour construire la maison, tout ce qui est nécessaire pour préparer les vêtements, pour, comment dire, plus que coudre, il n'y a pas que coudre, il y a tisser, pour
confectionner
les vêtements, et tout ce qui est nécessaire pour préparer le repas. Voilà, tout travail interdit, le Shabbat est dérivé ou rattaché à un de ces 39 travaux de base. Symboliquement, 3 unités de comportement, le comportement nécessaire pour construire une maison, tout ce qui va avec. Le comportement nécessaire pour confectionner les vêtements, tout ce qui va avec. Le comportement nécessaire pour préparer le repas et tout ce qui va avec. Et alors, on arrive à ce que je voulais étudier avec vous pour la construction du Mishkan. Vayomer Moshe kol ha'avad b'nei Israël. Et Moïse dit à toute l'assemblée des enfants d'Israël les mots en disant Zé Hadavar. Alors, faites bien attention. Zé Hadavar. Voici la chose. Asher Tziva Hashem les mots que Dieu a prescrit en disant Kechou meitechem teruma l'Hashem, prenez de vous-même, de votre part, teruma, un prélèvement, qui est une offrande, l'Hashem pour Dieu, kol nedi vivo, tout celui qui est porté par la générosité de son cœur, kol nedi vivo, yeviena, portera cette offrande, et apportera cette offrande, l'offrande de Hashem, zahav akesef un rochet, l'or, l'argent et le bronze. Indépendamment du sens symbolique de ces matériaux de l'offrande, auxquels je n'aurai pas le temps de me relier, mais vous devinez qu'il y a différents ordres de valeur en question dans tout ce qui est demandé. Nous avons la répétition de ce qui avait été demandé déjà dans la paracha de Teruma, où la Torah enseigne à quelles conditions une offrande est authentique. Une offrande est authentique à condition qu'elle soit spontanée. Qu'elle soit une nedava. Nedava, ça veut dire c'est porté par la générosité qui vient de ma propre spontanéité et qui n'est pas l'obéissance à un commandement. Si une offrande m'est commandée, ce n'est pas une offrande. Je vous donne un exemple dans un ordre de valeur. La différence entre la charité et la justice. Il y a une charité qui s'appelle tzedaka. C'est-à-dire que la charité, ça s'appelle chesed. Okay? Chesed, c'est la charité que je fais spontanément. C'est-à-dire, c'est la charité que je fais à qui ne mérite pas. Parce que s'il mérite, c'est plus de la charité, c'est de la justice. Ça, c'est chesed. C'est clair. Maintenant, il y a une charité qu'on appelle tzedaka. C'est de la charité, mais c'est une charité que ce n'est que justice que je la fasse. C'est une notion un peu contradictoire. C'est une charité que je dois. Mais qu'est-ce que ça veut dire que je dois une charité? Si je dois, c'est déjà plus de la charité. C'est un devoir. Vous voyez la différence? Est-ce que c'est clair? Et alors, j'entre pas dans le problème de la différence chesed et tzedaka, mais c'est pour vous indiquer le problème que nous avons ici. Une teruma n'est vraiment une nedava, du moins, une teruma n'est vraiment authentique que si elle est nedava. Une nedava, on ne demande pas à quelqu'un, fais-moi un cadeau. Un cadeau n'a de valeur de cadeau que si j'ai fait un cadeau. C'est bien clair. Et alors donc, Moïse a une tâche très difficile, celle qui consiste à faire que par eux-mêmes, son peuple porte comme offrande ce qu'il faut porter comme offrande. S'il dit, c'est ça et ça et ça et ça que vous apporterez, alors l'offrande n'est pas authentique. C'est-à-dire, on a construit un temple comme Dieu voulait, mais on l'a construit au marteau-pilon. C'est-à-dire, ce temple n'a de valeur que s'il vient de l'autonomie de l'homme. Que si c'est la part de l'homme dans cette alliance de la construction du Mishkan, du monde comme Mishkan, comme j'y ai fait allusion tout à l'heure. Donc c'est la grande difficulté de Moïse. Je reviens à la paracha de Trouma. Alors prenez le chapitre, ce que nous avons étudié d'ailleurs la dernière fois ensemble, chapitre 25. Nous allons voir comment c'est indiqué dans le verset. suivez bien, parce que vous allez avoir une petite surprise de la différence entre les deux commandements. Alors, c'est chapitre 25, verset 2. D'Abel ben Israël veikrouli Trouma. Voilà ce que Dieu dit à Moïse. Parle aux enfants d'Israël veikrouli Trouma. Est-ce que quelqu'un a une traduction en français sous les yeux? Oui. Oui. Donc, alors, ça fait rien. Lis, comment il traduit en français veikrouli Trouma?
Parle aux enfants d'Israël qui prennent pour moi un prélèvement.
Voilà, ben tu vois. Oui, bon, ça veut rien dire, c'est trop littéraire. Mais là, c'est déjà pas exact. Je vais dire ça. Relis plus fort. Entendez bien la formule.
Parle aux enfants d'Israël qui prennent pour moi un prélèvement de tout homme.
Non, d'accord, mais c'est le qu'ils prennent que je voulais mettre en évidence, véhicule et trauma. Mais je vais vous indiquer la difficulté de la traduction et pourquoi les traducteurs. Ici, dans la traduction du Rav Munk, on peut garder une certaine ambiguïté. Mais c'est pas exactement comme ça en hébreu. Là, c'est tout à fait autre chose. C'est littéraire. Okay? Regardez quel est le problème. D'Abel ben Israël parle aux enfants d'Israël et il n'y a pas, il dit leur, prenez-moi une offrande, apportez-moi une offrande. Il y a, parle aux enfants d'Israël et ils me prendront, c'est un futur. C'est pas parle aux enfants d'Israël et dis leur qu'ils m'apportent. Je vais expliquer un peu plus, vous allez me dire si c'est assez clair. Mais je voudrais savoir si c'est vraiment clair. Parle aux enfants d'Israël. Et c'est ton problème de savoir ce que tu as à leur dire, de telle sorte que par eux-mêmes, ils fassent ce que je veux qu'ils fassent. Mais ne leur dis pas, toi, ce qu'ils ont à faire. Que le résultat soit qu'ils fassent que. Est-ce que c'est clair? Bon, c'est d'une part la difficulté du pédagogue en général, et c'est la difficulté du médiateur. C'est-à-dire, ici, Moïse doit s'effacer complètement de telle sorte que Israël, c'est le génie de Moïse, qu'Israël puisse inventer ce que Dieu attend qu'il fasse. Vous voyez comment la Torah parle? Elle ne part pas dans le sens d'une discipline commandée de l'extérieur. Apportez-moi une offrande. Elle demande à Moïse, parle-leur et qu'il m'apporte, mais pas dis-leur de m'apporter, parle-leur et que le résultat soit qu'il m'apporte. Je ne sais pas si je suis arrivé à vous faire comprendre la difficulté qu'il y a là. D'abord, la difficulté des traducteurs. Hein. Ça ne se voit pas du tout en français, ça. Il y a en hébreu un futur. Parle aux enfants d'Israël et ils m'apporteront. Et que le résultat soit qu'ils m'apportent. Ça y est, c'est clair? Je vais vous lire une nuance de lecture chassidique. Si c'est toi qui leur parles, je te promets, ils t'apporteront. C'est je te promets la nuance, Ken. Hein. Et ça, vous l'avez dans Ve'ata Tetzavé. Prenez le début de la prochaine de Tetzavé. Vous allez le voir en hébreu plus. Le verset 2 du chapitre 27. Bien. Verset 2 du chapitre 27. C'est à propos de l'huile qu'il faut apporter pour le candélabre. Alors regardez comment c'est écrit en hébreu. Ve'ata tetzavet bene Israël, vous avez le verset sous les yeux? Kavzaïm bet. Et Kavzaïm, Kav, Sticha, oui, 20, pas 2. 20, pas 2. Ve'ata tetzavet bene Israël, et quant à toi, tu ordonneras aux enfants d'Israël, ve'ikro lecha, et ils t'apporteront. Alors, vous voyez la lecture? Si c'est toi qui leur parles, je te promets, ils t'apporteront. Donc, voilà quel est le problème. Alors, d'une part, l'important qu'il y a là, et là je rappelle ce qu'on a étudié un peu plus en détail, donc au moment de la parasha de Trouma, c'est l'autonomie de la réponse de celui qui est soumis à la loi. Il y a deux manières d'être soumis à la loi. Soit être soumis dans le sens d'obéissance à un commandement qui vient de l'extérieur, ça s'appelle l'hétéronomie de la loi, soit vouloir soi-même ce que la loi veut. Ça s'appelle l'autonomie de la loi. Du devoir moral. C'est clair celui-là? Donc le rôle de Moïse, c'est de faire qu'Israël veuille par lui-même ce que la loi demande. C'est très différent d'accepter d'obéir à ce que la loi exige ou de vouloir soi-même ce que la loi voudrait. Est-ce que vous voyez la différence de niveau de comportement? Est-ce que c'est clair? Ce n'est qu'à cette condition que la Trouma est authentique. Et alors, dans la parasha de Trouma, voici comment la trauma est définie. Qui doit apporter cette trauma? Prenez le verset, on revient dans chapitre 25. D'abord, le béni Israël, veikro li trauma, meet kolish asher il devenu niveau. De la part de tout homme qui est porté par son cœur. Je répète la formule en hébreu, meet kolish asher il devenu niveau. De la part de tout homme qui est porté par son cœur. Reprenez Vayakhel, chapitre 35, au verset 8, verset 5. Zéa davar asher si vachem lemo, kechou meitechem terouma. Prenez de vous-même la trouma. Quelle est la différence? Oui, Kolish, ça veut dire de tout homme. C'est-à-dire, Israël doit prendre la trouma qu'apporte l'humanité entière pour construire le temple de Jérusalem. C'est le jour où la Magbite sera faite par les Goïm. Ça vient déjà. Vous ne croyez pas que ça vient. Et alors, ce qui est arrivé, c'est qu'avec cette trouma apportée par l'extérieur d'Israël, il en est sorti le veau d'or. Alors c'est la raison pour laquelle, après le veau d'or, Moïse va préciser et va dire « Zeh adavar asher tivashel meo » Voici, je vais ajouter un mot, voici en réalité ce que Dieu m'avait demandé de vous dire. « Kechou meitechem teruma nashem » Prenez de vous-même la teruma. Alors je vais d'abord expliquer ça et on va voir Rashi. Est-ce que la question est claire? C'est clair? Vous voyez la différence des deux formules? Meet kolish asher idevenu libo tikro et terumati, de tout homme qui est porté par son cœur, c'est pas précisé s'il est d'Israël ou pas. C'est clair? D'autant plus qu'a priori, le temple de Jérusalem, c'est pour l'humanité tout entière. D'ailleurs, l'humanité tout entière le sait tellement bien qu'elle le réclame pour elle à une condition, que ce ne soit pas celui d'Israël. C'est pour ça que vous allez manifester mardi, d'ailleurs. Mais c'est très frappant à quel point c'est massif comme problème. Donc, Israël doit servir de relais, de telle sorte qu'on soit assuré que le matériau avec lequel le temple sera construit soit un matériau cachérisé, si j'ose dire. Si ça vient directement, sans une certaine cachérisation des valeurs qu'Israël est censé devoir faire, alors ce même or, au lieu qu'il en sorte le candélabre, il va en sortir le bonheur. Voilà, l'idée est très, très simple. C'est-à-dire, nous allons voir comment Rashi va le préciser de façon... Cet enseignement se trouve dans le Zohar. C'est-à-dire la différence dans la forme des commandements concernant le Mishkan et entre la paracha de Trouma et la paracha de Vayakhel, c'est d'une part le fait que dans la paracha de Trouma, c'est a priori de la faute, dans la paracha de Vayakhel, c'est a posteriori de la faute, avec ce que nous avons appris à ce sujet, mais c'est d'autre part le fait qu'a priori de la faute, le temple de Jérusalem est le temple de Jérusalem pour toute l'humanité, et c'est Israël qui le construit. A posteriori de la faute, c'est le temple pour Israël, et donc il est candidat à être détruit jusqu'au moment où sera construit le temple pour toute l'humanité. Vous avez compris pourquoi finalement le temple qui a été construit devait être détruit. Je referme la parenthèse, ça m'a fait penser à autre chose, mais je referme la parenthèse. Eh bien, nous allons voir comment... est-ce que c'est clair ce que je dis là? Je vais vous donner un enseignement chassidique encore à ce sujet. Vous savez qu'un juif pieux a l'habitude d'apporter de l'huile à la synagogue. Et l'huile qu'il apporte à la synagogue, c'est en vue que le shamash mette de l'huile dans la veilleuse qu'il y a devant le Aron HaKodesh. Mais le shamash a aussi besoin d'huile pour les gonds des serrures. Et alors, le sort de cette huile... Quelqu'un apporte de l'huile à la synagogue, il ne peut pas savoir a priori, il n'est pas dans les secrets du shamash, si ça va servir à faire brûler la lampe ou à graisser les serrures. Alors, les chassidim enseignent, je crois que c'est le Rav Lévi de Berditchev, que ça dépend de l'intention de celui qui a apporté l'offrande. Alors, je vais vous raconter une histoire chassidique. C'est à propos de la construction du Mishkan Moi, j'étais chargé de chercher parmi le peuple des artistes capables d'être Hoshem Mahashavot. Et en particulier, c'est Bezalel qui a été choisi parce qu'il était capable d'être Hoshem Mahashavot. Vous savez qu'est-ce que c'est en hébreu, Maaseh Hoshev? C'est une œuvre artistique. Eh bien, en hébreu, ça signifie Maaseh, une œuvre qui a demandé de la pensée, une Mahashava. Mais Mahashava, c'est aussi une intention. Alors ça veut dire que la terouma, la valeur, l'authenticité de la terouma dépend de l'intention de celui qui l'a apportée. Qui va pouvoir construire le temple? Celui qui est capable de penser les pensées de ceux qui ont apporté la terouma. Hoshev Mahashava. Vous avez compris l'explication. Alors, celui qui est capable de penser les pensées de ceux qui ont apporté la terouma, c'est quelle partie de l'or il va en faire les socles des poutres, quelle partie de l'or il va en faire le candélabre, quelle partie de l'or il va en faire le recouvrement du tabernacle, etc. Est-ce que c'est clair l'idée? Alors, on a raconté une fois qu'un chassid a demandé à son rabbin, dit, je ne comprends pas, dans les premiers temps du chassidim, les grands rabbins, les admorim, vous savez comment les chassidim qui parlent yiddish parlent du admor, ils disent le admour, parce qu'ils ont pour lui beaucoup d'admouration. En tout cas, le admour, il venait en calèche. Et puis aujourd'hui, on voit les admorim en Mercedes. Et puis avant, les yeshivot, eh ben, c'était des bétamidrages, et maintenant c'est des palais corses, je ne sais pas si vous êtes rentré dans une yeshiva en marbre, des mausolées. Et ça devient plus inquiétant que l'université. Déjà, l'université, c'est en marbre et vide. Mais alors, quand c'est en marbre, il faut se méfier. Et des fois, c'est des tombeaux. Et, bon, en tout cas, pour revenir au sujet, c'est que. Alors, il se demande, mais qu'est-ce qui est arrivé? Il dit, tu comprends, il y a trois sortes de racines. Il y a des chassidim dont l'offrande, c'est vraiment la chassidoute. Ça va au Talmud Torah. Et puis il y a des chassidim dont l'offrande, c'est la chassidoute. La moitié d'un doute. Alors ça, ben, ça va au marbre. Et puis il y a des chassidim pour qui c'est tout simplement le père était chassid. Alors ça va à la Mercedes. Vous voyez à peu près les différents niveaux. Ça c'est Hoshev Mahashavot. Effectivement, je crois qu'un des points, on a... ah, je suis en train de dire du lachon du marbre. Ça indépendamment du caractère un peu ironique de cet enseignement que j'ai entendu d'un chassid, d'ailleurs, je le vous dis. On voit bien qu'il y a, au niveau sociologique, une réalité de ce genre. Il y a une intention de l'offrande et à tous les niveaux de l'intention de l'offrande. Alors, nous allons voir tout de suite, le temps qui nous reste, comment Rashi va nous induire tout cela. En prenant dans Rashi, le chapitre 35 de Vayakhel, verset 4, « Zeh adavar asher tziva Hashem ». Dans Rashi. Hein? Viet, alors Rashi va expliquer le verset, la fin du verset 4, hein? Zeh adavar asher tziva Hashem lemo. Ce que Moïse va dire à l'assemblée d'Israël dans la paracha de Vayakhel, voici la chose que Dieu m'a prescrit de dire. Sous-entendu, maintenant je vous précise qu'est-ce qu'il m'avait demandé dans la paracha de Trouma. C'est ça qu'il m'avait demandé. Prenez de vous-même et pas des autres. Est-ce que c'est clair? Alors comment dit Sarachi? Zeh adavar asher tziva Hashem, li lomar lemor lachem. Qu'il avait prescrit à moi de vous dire. Qui comprend ce Rashi? Qui peut l'expliquer? Rashi dit trois mots. Zeh adavar asher tziva Hashem li lemor lachem. Mais c'est ça que ça veut dire le verset. Mais qu'est-ce que Rashi va ajouter? Voici ce que en réalité Dieu m'avait demandé à moi, Moïse, de vous demander à vous. Ça veut dire que Moïse prend sur lui le fait d'avoir formulé le verset de Trouma à l'échelle universelle. Est-ce que c'est clair? Moi, il m'avait demandé à moi de vous dire prenez de vous, et c'est moi qui vous ai demandé prenez de tout, de quiconque. Est-ce que c'est clair? Si on avait eu plus de temps, j'aurais attendu que vous le disiez par vous-même. Je ne voudrais pas que vous soyez impressionné par le fait que je vous ai lu Rashi. Okay? Mais relisez-le dans Rashi. On le relit en hébreu et en français. Zeh adavar asher tziva Hashem lemor, Rashi ajoute, li l'omar lachem. C'est quand Dieu m'avait parlé en disant, mais kolish, ça voulait dire de vous. Et moi j'ai dit kolish, et vous avez compris de n'importe qui. À quoi ça se rattache? C'est rien? Mais qui parle? C'est par là.
Est-ce que ça veut dire que Moshe pense en partie sur lui la faute du bonhomme?
Non. C'est dans ce sens. Très bien. C'est Moïse qui a pris l'initiative de prendre l'élevage dans Israël. C'est parallèle. C'est clair? Et alors là, bon, il nous reste quand même 5 minutes pour cela. Et alors vous croyez que Moïse joue au billes? Et Moïse, c'est Moïse. Et effectivement, c'est Moïse qui a pris l'initiative de faire sortir d'Égypte l'élevage avec Israël. Et c'est l'élevage qui a induit la faute du veau d'or que Israël a faite. Parce que la responsabilité de cette génération d'Israël est entière. C'est l'élevage qui, et je vais expliquer rapidement pourquoi, voyant que Moïse n'était pas redescendu de la montagne, et je vais employer des termes qui vont essayer de vous faire comprendre, par allusion, qu'est-ce que c'est que cette faute du élevage dans le monde moderne. Et je ne parle pas du veau d'or, cette accusation antisémite que les juifs adorent le veau d'or. Ce n'est pas parce que les juifs adorent l'or qu'ils ont fait un veau. C'est parce qu'ils adoraient le veau qu'ils l'ont fait en or. Et voici, c'est clair. Et d'ailleurs, le veau en question, c'était un taureau. Et c'était un changement de signe de zodiaque. Enfin, il y a une histoire d'astrologie derrière. Ils adoraient un symbole de la médiation des forces cosmiques. Il n'était pas celui qu'il fallait reconnaître. Bon. C'est alors qu'on était sortis du bélier, bon, ils sont rentrés dans le taureau. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et plus tard, on va vous parler du sauveur qui est né d'un autre signe du zodiaque. Vous savez lequel. Mais quoi qu'il en soit, le problème, je vais le schématiser, le texte est très clair. Quand la faute du veau d'or a lieu, Dieu s'adresse à Moïse et dit, pour rappeler du verset, vous l'avez étudié la semaine dernière, « L'air red qui chichet amcha asherah elita meret misraï. » Va, descend. Parce que ton peuple que tu as fait sortir monter d'Égypte a fauté. Chaque fois qu'il y a l'expression la halot mimitraïm, monter d'Égypte, il s'agit du Ereva. Il n'y a pas d'exception dans la Torah. Il y a une exception apparente dans les prophètes, c'est dans Jérémie d'ailleurs, mais en réalité il s'agit du Ereva qui reviendra de la galoute avec les rescapés de la galoute. Ce qu'on voit de notre temps d'ailleurs. Et ne pensez pas ni aux Russes, ni à personne d'autre. Il ne s'agit pas d'eux. Il s'agit du Ha'elav qui est en Israël de façon permanente et qui nous vient de la Galoute. Je vais en dire quelques mots tout à l'heure. Mais quoi qu'il en soit, la règle est très claire, vérifiée. Chaque fois qu'il s'agit d'Israël, c'est Yetziat Mitzrayim, la sortie d'Égypte. Chaque fois qu'il s'agit de Aliya, c'est le Ha'elav. Vous voyez de quoi s'occupe la Sornout, hein? Eh bien, alors le verset... Dieu s'adresse à Moïse et lui dit « L'air red ». Le Midrash dit « L'air », ça veut dire « red », ça veut dire « red migdoulatra ». Parce que Moïse est au haut de la montagne. « L'air », ça veut dire « red ». ».« Va », ça veut dire « descend ». Alors qu'est-ce que ça veut dire « descend » C'est-à-dire « descend ta grandeur ». Et le Midrash continue « Je ne t'ai donné de grandeur que pour Israël. Israël a fauté, ta grandeur disparaît. » Vous connaissez ce Midrash. Or, on voit très bien que Rashi intervient et dit, ton peuple, c'est le Ha'elevav, que tu as fait monter d'Égypte, tu as décidé de le faire entrer sous les ailes de la Shrina sans me demander mon avis, dit Dieu. Velo nimnartabi, relisez Rashi. Et alors, Moïse intercède tout de suite pour Israël, pas pour le Ha'elevav, pour Israël. Nous allons voir tout de suite la prière de Moïse, la première prière de Moïse, elle est pour Israël, pas pour le Ha'elevav. Quel sens ça? C'est que Moïse savait qu'on ne peut sortir d'Égypte qu'en emmenant le Ha'elevav. Et si on n'emmène pas le Ha'elevav, toute l'histoire de l'exil perd son sens. Une des fonctions de l'exil, c'est de ramener le Ha'elevav. Et si on ne le ramène pas, il faut retourner en exil pour le ramener. Et je vous dirai de quelle version on apprend. Est-ce que c'est clair ce que je veux dire? Une des fonctions de l'exil, c'est dans la Gemara d'Yoma. Ça veut dire, il y a perdu dans le vaste monde des valeurs et des personnes qui originellement devraient être d'Israël et qui sont perdues d'Israël. Alors une des fonctions de l'exil, c'est de les ramener. C'est un mystère cet enseignement. Parce que pour ramener quelques étincelles de sainteté perdues dans le vaste monde, on perd des quantités d'âmes d'Israël. Vous avez remarqué ça? Il y a une espèce de tri catastrophique. Et tout ce qui se perd dans l'exil pour ramener ce qui est ramené. Réfléchissez bien à ça. Ces enseignements ne sont jamais simples. Il faut bien comprendre leur profondeur. Le Rav Kook, en tout cas, le Rav Kook, le père, a fait un psak. C'est qu'à partir du moment, on l'a dit, avant même l'existence de l'État d'Israël, à partir du moment où l'État d'Israël existe, on devrait interdire aux tribunaux rabbiniques de l'étranger de faire des convertis, à moins de les faire pour Israël. Et je vais vous dire quelle est la raison. Je ne l'ai pas lu dans le Rav Kook, mais je l'ai entendu de l'enseignement du Rav Kook. Ça veut dire qu'un tribunal rabbinique de l'étranger qui convertit un goy au judaïsme le condamne à l'exil. Pour lui, le pauvre, il n'a fait aucune faute pour être dans l'exil. Je ne sais pas si vous rendez compte de ce que je dis là. Alors vous avez en Amérique, partout, des tribunaux rabbiniques qui condamnent des goïms à la galoute. En réalité, c'est un devoir d'accepter un converti authentique. Mais pour Israël, on n'a jamais demandé à quelqu'un de faire un converti galoutique. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. Mais en général, ils finissent par arriver en Israël. Les vrais. Je vais raconter une histoire à laquelle j'ai dû être mêlé un peu de loin. Parce que c'est passé avec des juifs américains, mais j'étais appelé par le Bédine pour donner mon avis. C'était un Bachou Yeshiva d'Amérique qui s'est épris, comme on dit en français, d'une Goya. Et puis ils ont décidé de se marier, qu'elle se convertisse. Et elle est venue en Israël pour étudier, pour se convertir, avec un accord entre les tribunaux rabbiniques. Je ne dirais pas quelle ville d'Amérique, les tribunaux rabbiniques de Jérusalem. Au bout d'un certain temps, la conversion a été faite. Et le jour de la conversion, cette dame a dit, je ne veux pas me marier avec ce juif. Et elle dit, comment moi je vais me marier avec un juif qui voulait se marier avec une goya? Authentique. Oui, tout est possible. Et bon, elle s'est mariée avec un juif, ils sont heureux, tout va bien, je les connais en plus. Non, je ne sais pas ce qui est arrivé. Bon, il y a beaucoup de cas comme ça. En tout cas, je reviens au problème. Le raisonnement de Moïse, c'est que si le Haïlev avait détruit, c'est mauvais pour Israël. Ça veut dire qu'Israël sera obligé de retourner en exil. Donc, dès qu'il y a condamnation du Haïlev par Dieu, Moïse prie pour Israël. Vous allez lire ces versets-là, prenez la Bachat qui dit ça, vous allez prendre le chapitre 32, verset 11. Il nous reste encore une demi-minute. Bon, si vous avez un peu de patience, on termine ce texte. Chapitre 32, Lamed Bet, verset 11. Vaïchal Moshe et Pene Hashem Elokav. Vous y êtes? Yudalef. 11, c'est Yudalef. Et Moïse pria devant Hashem, son Dieu, Vayomer, et il dit, Lama Hashem Yechere Apecha Be'amecha. Pourquoi Dieu, ta colère s'enflammerait contre ton peuple? Vous voyez ce dialogue? Dieu a dit à Moïse, ton peuple a fauté. Moïse prie, pourquoi ton peuple serait puni? Vous avez compris là ce qui se passe. Asherot tseta amelet mitzraïm, que tu as fait sortir du pays d'Égypte. Vous voyez la différence? Dieu lui a dit, Asheré Elita, que tu as fait monter. Ça, c'est la Ereba. Becholar gadolu bechazaka, que tu as fait sortir du pays d'Égypte avec une grande force et une main forte. Lama yomru mitzraïm, les mots, pourquoi les Égyptiens diraient-ils? Il les a fait sortir sous le signe du mal, pour le malheur. La harogotam behari, pour les tuer dans les montagnes. Bchalotam mealpenadama, et les détruire de la surface de la terre. Shou mecharonapecha, reviens de ta colère. Veinachem alehamecha, et regrette, littéralement inachem, mais ça veut dire reprends ta décision de faire du mal à ton peuple. Alors vous allez me dire comment on vous traduit dans les. Bible française, ce que je viens de lire, la fin du verset 12. Quelqu'un peut lire en français? Non, non, non. La fin du verset 12. Oui.
Et révoque la calamité qui menace ton peuple.
Voilà, et révoque la calamité qui relâche ton peuple. C'est faux. Et dis-toi. Non,
non plus, parce que reviens de la fureur de ton
courroux
et repens-toi du mal contre ton peuple. Tu dois se repentir.
Non, non, laisse tous ces détails de forme. Là aussi, l'idée n'est pas exacte. Enfin, je regrette de dire c'est faux. Je vais vous dire, c'est pas que les traducteurs ne connaissaient pas l'hébreu, ils connaissaient pas le français. C'est-à-dire, non mais c'est vrai, je dis pas des blagues. C'est-à-dire, ils sont pas arrivés à trouver la forme française qui pourrait formuler exactement ce qu'ils ont compris en hébreu. Alors, nous allons lire comment c'est écrit en hébreu, lisez bien et suivez avec les ta'amim. À partir de Shuv Meharon Apecha, suivez avec les accents. Je lis, vous me suivez. Shuv, reviens, Meharon Apecha, de ta colère, de ton courroux, Veinachem alara, Maharir Tarha, Veinachem alara, et révoque le mal, Le'amecha, en faveur de ton peuple. Est-ce que c'est clair? Vous voyez comment les ta'amim coupent la phrase. Vous avez compris? Alors, on va le vérifier dans un verset plus loin. Prenez la fin. Prenez verset 14. Verset 14. Vaynachem Hashem. Et Dieu révoqua, alalara, la calamité, Asher Diber, qu'il avait dit, la asot le armo, pour agir en faveur de son peuple. Et comment on vous traduit?
Se repentit. L'Éternel se repentit.
Non, mais la suite. C'est ça le problème. Verset 14. Mais c'est la suite que je vais entendre. Non, la fin du verset. Voilà, vous voyez la différence? Lisez la traduction, mais à voix haute. Voilà, alors vous voyez que ce n'est pas ce qu'il y a écrit en hébreu. Ce qu'il y a écrit en hébreu, c'est que Dieu a décidé de suspendre la sanction pour pouvoir agir en faveur d'Israël. Est-ce que c'est clair? Bon, alors là vous avez un exemple supplémentaire qu'il faut étudier en hébreu. Alors ensuite, quand Dieu a accepté la prière de Moïse et a suspendu la sanction contre le Ha'elva pour sauver Israël, le Ha'elva a été introduit en Israël. Et si le Ha'elva avait été introduit en Israël, alors là, il devient passible de la loi d'Israël. Et là, il faut prier pour le Ha'elva. Et c'est la raison pour laquelle il y a une deuxième prière. Et celle-là est pour le Ha'elva. Vous allez la lire, il y a juste deux versets. C'est chapitre 32, verset 31. Plus loin. Chapitre 32, verset 31. Vous y êtes? C'est Vayashov. Alors je lis. Vayashov, Moshe et Hachem, et Moïse revint vers Dieu. Vayomare, il dit, Anna, de grâce, Hata a ramasé, ce peuple, et il s'agit du Ha'elevah, a fauté, Hata a Eudola, une grande faute. Vayasulahem et Loézab, ils se sont fait des dieux d'or. Verata est maintenant, Intisa Hatatam, si tu élèves leur faute, élève, ça veut dire suspend leur faute, Veimaïn et sinon, Mehenina, efface-moi, misifrecha shekhatavta, du livre, de ton livre que tu as écrit. Le Midrash explique qu'on ne dise pas il était là pour nous imposer la loi, il n'était pas là pour intercéder pour nous. Ah oui, il y a deux prières différentes. C'est pas qu'il y a une répétition de deux textes. La première prière, c'est pour Israël. La deuxième prière, c'est pour le Ha'elevah, une fois qu'il a été intégré à Israël. Est-ce que c'est clair? Non, ne m'interrompez jamais. Et alors, il en résulte que ce qu'il faut comprendre, c'est quelle est la signification de ce fait pour lequel Moïse prend l'initiative, qui est confirmée a posteriori par Dieu, d'intégrer le Ha'elevah à Israël. D'abord, la grande différence entre le Ha'elevah et Israël n'est pas dans le fait d'avoir accepté ou pas la Torah au Sinaï. Les deux ont accepté la Torah au Sinaï sans problème. C'est l'attitude dans laquelle la Torah a été reçue. La grande différence, c'est qu'Israël avait six générations d'éducation hébraïque d'Abraham à Moïse que n'avait pas le Ha'elevah. Là, je voudrais insister là-dessus, même si je vous prends 5 minutes. Il y a une identité de culture, de derecheret propre à la Torah et qui précède la Torah, que si on ne l'a pas, lorsque la Torah elle est reçue dans une attitude païenne. Est-ce que c'est clair? Et c'est vrai pour les Juifs aussi. La raison pour laquelle vous avez énormément comportement superstitieux, de risques magiques chez les Juifs eux-mêmes, ça vient de ce que la Torah est reçue sans le Derech Eretz hébreu. Vous voyez ce qui est arrivé? Il y a 6 générations du Derech Eretz hébreu d'Abraham à Moïse que n'avaient pas la Torah, ils l'ont accepté. Mais cette Torah, ils l'ont accepté avec Moïse comme médiateur. et avec Moïse comme médiateur divinisé. Ça, parce qu'ils étaient d'expérience païenne. Mais il y a ce risque-là, si la Torah est reçue sans le déréféré de ses proches. Je ne dirai pas plus, parce que vous allez faire des analogies, je ne veux pas que vous fassiez. Voilà quel est le problème. Alors, il en résulte, parce que j'ai aujourd'hui, je dois avoir un lèvre dans la bouche, dans la gorge. Non, il y a sûrement une allergie. Dans tous les cas, ce qu'il faut comprendre, c'est que d'une certaine manière, Israël, qui s'est constitué comme peuple de prêtre pour l'humanité, a un handicap dès le début de son histoire. Il prend sur lui la faute de l'humanité, de telle sorte de pouvoir l'expier. Bon, je ne vais pas lui exprimer ça de manière aussi tranchée. Et je devrais dire les fautes. Enfin, je veux dire les fautes de métier d'homme. C'est-à-dire, je vais expliquer ce que je suis en train de dire. La grande caractéristique de l'expérience religieuse d'Israël, c'est d'être collective. Israël ne contacte, Dieu ne contacte alliance religieuse avec Israël que lorsqu'Israël est une collectivité. Alors que chez les goïms, l'expérience religieuse est d'abord individuelle, elle se met en commun. Une communauté religieuse chez les goïms, c'est, quelles que soient les apparences, c'est vrai même dans l'islam. C'est une expérience individuelle qui est mise en commun dans une communauté. Ça s'appelle faire église. Est-ce que vous voyez la différence? Tandis que l'expérience religieuse en Israël, c'est un peuple avec qui Dieu a contracté alliance. Et on est individu à l'intérieur du peuple. Alors, deux choses à ce sujet, mais concernant notre problème. La grande différence, d'abord, c'est que nous n'avons pas de héros exemplaires dont la Torah nous raconterait l'histoire comme une histoire à imiter. C'est l'histoire d'Israël comme collectivité. Le commencement de l'histoire d'Israël, ce n'est pas l'histoire d'Abraham, c'est l'histoire de la sortie d'Égypte. Est-ce que c'est clair ce sujet-là? Voilà la grande différence avec ce qui pourrait sembler analogue chez les goïms. Et là, il faut mettre entre parenthèses l'islam, d'ailleurs. Mais malgré tout, il s'agit d'une réalité d'ordre collectif que chacun vit à l'échelle individuelle, au niveau où il se trouve. Et il peut y avoir des niveaux négatifs. Mais ce sont les niveaux négatifs de cette expérience-là et pas d'une autre. Je vais vous donner une image en mathématiques. En mathématiques, vous avez des théorèmes qui ont plusieurs... comment on appelle ça? Non, quand on dit la solution d'un théorème, j'ai oublié.
Démonstration.
Non. Plusieurs. Équation.
Hypothèse.
Non, j'ai oublié. Vous avez un théorème. Et une équation qui a plusieurs solutions. Et il y a des solutions négatives, des solutions positives. Je me rappelle de mes études.
Hein?
Ah, c'est ça, voilà, très bien. C'est un exemple. Eh bien, vous avez une solution négative à la même équation. Mais elle concerne cette équation-là. Ceci pour dire en d'autres termes que vous pouvez avoir des juifs athées, mais ils sont juifs. Alors qu'un goy, même croyant, n'est pas juif. Je ne sais pas si vous voyez la différence. C'est une chose d'ailleurs qui est très difficile à comprendre pour les goyim. C'est-à-dire que... Mais je vais vous citer un auteur qui me revient parce qu'il l'a mis en note dans sa thèse de doctorat. C'est un grand sociologue d'origine juive, complètement athée, d'ailleurs marxiste, qui s'appelle Éric Weil. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de lui. Vous l'avez connu? Oui. Dans sa thèse de sociologie, il met une note en disant « Lorsque je fais allusion à la religion que je ne pratique pas et dans laquelle je ne crois pas, c'est le judaïsme, ce n'est pas le christianisme. » C'est-à-dire, ne me changez pas la religion à laquelle je ne crois pas. Il n'y a pas plus orthodoxe qu'un juif athée. Donc, il s'agit d'une réalité d'ordre collectif. Pourquoi? Parce qu'il s'agit du salut de l'universel. Alors, le salut de l'universel ne passe pas par un individu, mais par une collectivité. Il n'y a qu'une collectivité qui peut représenter l'universel. Est-ce que c'est clair? Alors, c'est la raison pour laquelle toutes les manières d'être homme de l'universel humain se reflètent dans l'identité d'Israël, d'abord à travers la constitution des tribus d'Israël, à un certain niveau, au niveau hébraïque, et ensuite à travers le Hélévla. Alors, je reprends ce que je disais tout à l'heure, c'est la raison pour laquelle le Hélévla introduit en Israël ce qui est le propre... Et à la fin de la paracha, Dieu dit à Moïse, va dire à Israël, méfiez-vous, maintenant vous êtes devenus un kesher oref. Mais la kashrut oref vient du Erevra. Lisez bien le texte. Est-ce que c'est clair? Alors regardez jusqu'où ça va. Cette accusation du peuple à la nuque raide, d'ailleurs certains disent avec coquetterie à la nuque roide, sur les juifs, ça vient du Erevra. Alors ce que je veux expliquer, je voudrais que ça soit clair, c'est qu'Israël a pris sur lui d'être cela pour pouvoir être Israël. Et alors je vais le dire très rapidement au niveau sociologique. Je ne sais pas si vous avez remarqué, quand les Juifs reviennent d'exil, ils ramènent avec eux toutes les manières d'être goy, d'être homme, avec les qualités et les défauts. Et c'est tout ça ensemble qui est mis dans le même creuset que devient la société israélienne. Est-ce que c'est clair ce que je dis? Ben, c'est exactement de ça dont je parle. Or, je suppose que vous êtes très préoccupés des événements qui se passent actuellement, d'ailleurs déjà depuis le 13 septembre, je suppose. Et je ne voulais pas ce soir en parler, je suppose qu'il est inévitable que nous ayons une fois une soirée d'études là-dessus, parce que beaucoup de gens me demandent qu'est-ce qu'il faut en penser et comment en penser. Ça ne peut pas se faire sur des têtes d'épingle. Mais déjà une fois, au cours du dimanche soir, j'avais distribué une feuille de référence. Vous allez l'apprendre, ceux qui savent lire déjà en hébreu, l'apprendre, vous en avez à la sortie. Et vous verrez qu'effectivement, tous les événements qui se passent aujourd'hui sont indiqués dans des références qui vous sont données, en particulier du Zohar et du Talmud, mais surtout des livres du Rav Kook, qui nous décrit et explique ce qui est en train de se passer actuellement, et tout cela est indexé au Erevra. C'est que si on avait le temps, j'aurais lu au moins deux ou trois lignes. Dans tous les cas, dans les semaines qui viennent, on aura le temps de reprendre ces textes. Ceux qui, en tout cas, savent lire par eux-mêmes, prenez le texte et vous l'étudierez. Je vous lis simplement, au fond, une phrase. Une phrase, vous allez voir à quel point la correspondance est frappante. « Mihem elu shetzorerim lesha'acheim bene Israël. » Qui sont ceux-là qui persécutent le reste de leurs frères, les enfants d'Israël? « Mais marerim et chayem » qui rendent leur vie amère, « msakenim kiyumam » et qui mettent en danger leur existence. « Chazal kevar tiheru tsaroteim shel bene ador lifna geula » Déjà nos maîtres ont défini les malheurs des hommes de la génération qui précédera la Géoula, et on nous donne toute une série de références. Je voudrais vous lire une phrase qui est très frappante. Hayad amechadeshet beafratzot bli zecher l'kdushat Israël amalbisha את החיים צורה ישראלית מבחוץ במקום שהפנים כולו הוא אינו יהודי. C'est ceux qui présentent une apparence extérieure israélienne alors que l'intérieur de leur identité n'est plus juif. Bon, vous verrez toutes ces références, on se revoit la semaine prochaine.